Très bien, bonsoir à tous. Nous n'avons pas de micro, mais je pense que vous nous entendez bien. Voilà, donc c'est le lancement d'une nouvelle année écuménique ici à Saint-Eustache et également à l'Oratoire du Louvre pour la cinquième année, un quinquennat écuménique. Et nous avons pensé cette année axer ce cycle de lecture commune, de causerie, au coin du feu presque, sur la Bible, de l'axer autour de la question de la foi, la question de croire. Effectivement, l'Église catholique, par la voix du Saint-Siège, a proposé que l'année qui vient, dans laquelle nous entrons, bientôt avec le temps de l'Avent, mais l'année de la foi a déjà été lancée à Paris, donc que cette année soit consacrée à scruter ce qu'est la foi, puisque la religion chrétienne est fondée autour d'une foi, ça n'est pas le cas de toutes les traditions religieuses du monde. Et donc Marc, avec beaucoup de bienveillance, a accepté que ce thème de la foi puisse être aussi le thème de nos rencontres. Alors on a appelé ça la foi dans tous ses états, croire en qui, croire en quoi, croire comment, voilà. Je fais juste une petite parenthèse et je me permets de présenter toutes mes excuses à ceux qui seraient venus la semaine dernière, parce que dans le livret paroissial de Saint-Eustache, il y a eu une petite ambiguïté. Le groupe Abraham a été confondu, Oresco Reference, avec le groupe écuménique. Et voilà, donc peut-être que certains sont venus inutilement. Voilà, je referme cette parenthèse. Alors, il se trouve que nous avons opté cette année pour non pas une lecture chronologique de la Bible, mais des va-et-vient entre l'Ancien Testament, le Premier Testament, comme disent les Juifs, et comme nous devrions dire, et le Nouveau Testament. Et effectivement, pour relire peut-être les grands moments, redécouvrir, revisiter les grandes étapes, les grandes figures, les grands récits de la foi. La Bible n'est pas un traité de théologie, elle n'opte pas pour un langage conceptuel, déductif, mais au contraire, ce sont souvent, vous le savez, soit des textes juridiques, soit des textes poétiques ou lyriques, mais essentiellement des textes narratifs. Et donc, il y a une théologie narrative, une théologie qui ne peut se dire qu'avec le récit et en récit. Alors, une année de la foi et un parcours écuménique de la foi, c'est probablement, je l'espère, pour revivifier notre foi, pour la refonder. Nous savons, dans la tradition chrétienne en Occident, que la foi entretient des liens avec la raison. La foi n'est pas irrationnelle. Le fidéisme, qui est une foi sans la raison, a montré ses impasses. De même que la raison, qui devient rationaliste et s'idolâtre elle-même, se désolidarise de cet acte fondamental qu'est la foi. Donc ça a été la tendance du 19e siècle, hein. Une foi purement fidéiste et piétiste, quelquefois superstitieuse, et puis une raison triomphante, scientiste, positiviste. Le XXe siècle et l'époque que nous vivons essaient de revivre une alliance nouvelle entre la foi et la raison. C'est d'ailleurs l'obsession peut-être de nos églises, c'est aussi l'un des axes majeurs de la pensée de Joseph Ratzinger, qui est le pape de l'Église catholique, patriarche de Rome. Et si la foi entretient des liens avec la raison, nous savons très bien, il suffit de s'observer soi-même, que notre raison est toujours inquiète, elle n'est jamais satisfaite, elle n'est jamais en repos. Et donc, comme la raison suscite du doute, du scepticisme, de la question, de la remise en question, de la remise en cause, forcément, on découvre et on découvrira tout au long de l'année que le doute habite la foi, que le doute n'est pas le contraire de la foi, qu'il entretient des liens internes puissants, pas seulement dialectiques d'ailleurs, mais profondément organiques avec la foi. Et tout croyant l'a vécu à un moment donné de sa vie. Souvent, notre foi doit passer par le feu d'expériences humaines qui semblent la contredire de manière définitive. Et Le croyant voit alors ses évidences s'effriter et peut-être quelquefois le sol se dérober sous ses pas. À l'inverse, celui qui se prétend incroyant ou positiviste, qui postule une clôture du monde et de l'histoire, découvre aussi qu'il doute de son doute ou qu'il doute de son incroyance et que d'une certaine manière, c'est par le doute que le croyant et l'incroyant sont proches et sont frères, non seulement en humanité, mais dans la quête spirituelle. Voilà, et le croyant doit découvrir, je crois que le croyant chrétien, ce sera peut-être d'ailleurs la flèche, l'itinéraire de cette année, découvre que l'incertitude est le lieu même de la foi. Si nous contemplons la croix, nous découvrons ce gouffre vertigineux où l'incertitude et la foi sont finalement les deux faces d'une réalité assez proche. J'ai une figure qui me vient en tête, qui plaira à l'une des personnes de cet auditoire, c'est le début du soulier de Satin de Claudel, où l'on voit ce jésuite qui est accroché à une poutre, à un madrier, qui flotte sur l'océan. Son bateau a fait naufrage, il est seul accroché à un bois. Il dit, ce bois, Seigneur, c'est le bois de ta croix. Et il est arrimé à la croix du Christ, mais cette croix flotte sur l'abîme. Elle est d'une certaine manière perdue dans l'immensité de l'espace, du temps. Et il y a quelque chose là qui nous fait saisir ce qu'est la foi, c'est-à-dire cette confiance fondamentale, et cette scène est absolument magnifique, et en même temps ce vertige, parce que évidemment la foi n'est pas là pour rassurer, la foi met à nu le réel, elle le fait passer par le feu et elle dévoile à nu évidemment ce qu'est l'expérience humaine. Alors, nous, ce que nous allons modestement essayer de traverser cette année, c'est la foi dans la Bible. Alors, la foi dans la Bible, c'est déjà un mot qui n'est pas le mot foi, c'est un mot hébreu, émouna. Je fais juste une petite parenthèse comme ça sur l'étymologie. Émouna, ça a donné amen, c'est donc la solidité, c'est la fermeté. Et le verbe croire, c'est aman, donc vous voyez, c'est un même mot. Là où nous, par tradition latine, nous avons croire, credere, et foi, fides, donc on a deux origines différentes, ce qui est aussi une richesse, évidemment. Fides, c'est foi, fidélité, confiance, bien sûr, hein. Fiançailles. La langue hébraïque a une seule racine, hein, aman, emouna. En grec, même chose, vous avez pistéo, pistis, c'est la même racine aussi, mais ce n'est pas la connotation de fermeté ou de solidité qui est première. Ce qui est premier, c'est l'idée de conviction, de persuasion intime. Pistéo, c'est vraiment, évidemment, la Grèce, c'est le pays de la rhétorique, donc il y a l'idée que la parole pénètre jusqu'aux moelles et qu'elle convertit, qu'elle transforme la personne. Voilà. Évidemment, oui.
Il y a quand même un deuxième mot, il y a bâtard en fait,
Bâtard,
bâtard qui veut dire avoir confiance, qui est aussi un mot pour la foi dans l'Ancien
C'est
Testament.
vrai, oui.
Mais c'est vrai que dans les deux cas, c'est pas une. Comment dire, c'est parfois traduit dans les Septante par aletheia, la vérité. Et d'ailleurs, on le voit quand Jésus dit Amen, Amen, je vous le dis, c'est souvent traduit en vérité, je vous le dis. Et c'est une tradition un peu ancienne qui date des Septante en fait, pour traduire ce mot de la foi, Amen, finalement. Mais. Est-ce que c'est, voilà, on voit bien ce que tu dis, en fait, c'est vrai,
Oui.
c'est-à-dire que les Grecs ont hésité comment traduire cette notion de l'aman, aman, amen, bâtard, qui sont donc ces deux racines de la foi dans la Bible hébraïque, comment le traduire en grec où il n'y avait pas cette notion, finalement, ce concept,
Tout
ces
à fait.
concepts de confiance, c'est-à-dire comment dire, d'une relation solide et ferme malgré tout, éventuellement malgré tout, malgré le doute.
Tout à fait.
Oui. Alors qu'aletheia, ça rend pas bien ça finalement. Sauf qu'il peut y avoir ça aussi. Dans l'aletheia, il y a quelque chose de la vérité profonde qui se révèle dans la notion grecque de vérité. Mais sauf qu'aletheia, on pense à une connaissance. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette ambiguïté, tu dis, entre croire, hein, et la foi. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Comment on comprend ces mots qui sont dans nos traductions, par exemple dans l'évangile selon Jean, on le comprend souvent de l'ordre de la croyance finalement, se croire. Alors que c'est pisteo, et donc en amont, c'est pas un verbe de la croyance ou de la connaissance, c'est un verbe de la pistis, de la foi, c'est un verbe de la confiance ou de la, non, enfin de la d'un lien fort en fait.
Je précise juste pour la oui. traduction de la Septante, puisque tu l'as évoqué, c'est oui. donc la traduction en grec qui a été faite
en moins 300,
voilà, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et souvent, les évangélistes, lorsqu'ils citent la Bible, la citent dans la version grecque. Et il y a des petites nuances quelquefois.
Il y a des nuances dans le texte, et c'est vrai qu'ils essayent de faire ce lien, cette traduction, non pas seulement simplement des mots, mais des concepts. Et donc, ce n'est pas très facile parce que quand on voit un mot dans l'Évangile, par exemple, assez souvent, il faut rechercher le mot hébreu qui est derrière pour voir de quoi on parle. C'est le cas, par exemple, de la difficulté avec le verbe, le logos, par exemple, du début de l'Évangile selon Jean, la parole ou le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-on? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que ce concept de parole ou de verbe, c'est un concept qui est extrêmement important aussi dans la philosophie grecque, avec les stoïciens, ou choses comme ça. Mais c'est aussi un mot très important, d'abord la parole acte de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors on hésite à ce moment-là de se dire, bon, ce mot grec logos dans l'Évangile, est-ce que ça fait référence au logos grec de la philosophie? Est-ce que ça fait référence à la parole de la création du monde dans la Genèse, c'est-à-dire ce Dieu qui agit dans le monde par la parole, par le sens, par le dialogue, par l'appel, par choses comme ça? On hésite, et c'est un peu délicat, vous voyez ce que je veux dire, de savoir de quoi parle à ce moment-là Jean quand il écrit ça. Pour ces concepts de foi, c'est aussi un petit peu délicat de savoir, bon, dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'on sait le sens des mots? C'est pas facile non plus, parce que notre corpus en hébreu est limité à la Bible, en gros. Alors, pour les mots comme Emouna, Amen, Batar, il y a, je ne sais pas, 250 occurrences dans l'Ancien Testament. Ça permet déjà de voir un petit peu, en regardant tous les versets, ce qui est très facile aujourd'hui avec l'ordinateur, un peu ce que peut vouloir dire le sens des mots. Pour des mots plus rares, c'est plus délicat. Il faut souvent faire appel à des langues voisines, à l'égyptien, à l'arabe, à l'acadien, d'autres langues, pour essayer de se dire, bon, dans des langues voisines, cousines, ça veut dire un peu ça, donc peut-être que... Et là, on se tourne vers les Septante parfois, en se disant, ben, les savants juifs qui ont traduit ces notions en 300 avant Jésus-Christ, à un moment où il y avait un dialogue entre Alexandre, finalement, le Grand, et donc déjà un dialogue avec la philosophie grecque, avec Aristote, Platon et d'autres. Il y avait déjà un dialogue entre la Bible hébraïque, la pensée hébraïque et la pensée grecque. Ils ont essayé de traduire les termes correctement, mais avec les limites. Donc qu'est-ce que veut dire le mot « foi » dans la Bible? Ben, il y a cette... je crois que, bon, en tout cas pour l'Ancien Testament, je crois que ce que tu as dit, c'est vraiment ça. C'est le sens du mot Amen. Alors j'ai lu quelque part que ce Amen, c'était la corde qui attachait dans les caravanes de chameaux le nez du chameau, du deuxième chameau avec la queue du premier chameau. Et pareil pour le troisième, quatrième, cinquième. Donc c'est un peu, ce lien s'appelait... du nom, cette ficelle qui attache les chameaux dans la caravane, c'était le mot qui se rattache au mot foi. Donc ce serait ce lien, vous voyez, on ne sait pas trop, le chameau, 42e chameau dans la caravane, il ne sait pas trop où on va, mais il y a cette ficelle qui le tient, quoi, et donc il se dit, ben, sans doute, je vais dans la bonne direction parce que la queue du chameau devant m'indique que c'est le bon chemin. Si vous voulez. Donc c'est peut-être que la foi, c'est quelque chose comme ça, comme un lien, une ficelle qui nous rattache à quelque chose, voilà, qui indique une, qui nous garantit peut-être une certaine sûreté. Bonsoir monsieur, bienvenue. Oui, il y a une petite phrase.
Voilà, donc là on a eu un panorama très surplombant, philologique et rabbinique presque. des effets de sens hein, du mot foi dans la Bible, évidemment, et même jusque chez saint Jean. Alors, on va bien sûr revenir à notre texte, mais je pense que l'essentiel, c'est de voir, dans un premier temps, parce que là, on est quand même à la première séance, que la foi biblique, effectivement, n'est peut-être pas, n'a rien à voir avec ce que nous, on appelle l'opinion, par exemple. Vous savez, quand on dit « j'ai la foi » ou « j'ai pas la foi », ou finalement je l'ai, ou j'ai pas. Vous savez, ce mouvement de balancier, cette oscillation, qui n'est pas très saine au fond, la foi est trop sérieuse pour se limiter à cet effet de ce que les Grecs appellent la doxa, c'est-à-dire l'opinion, qui est finalement quand même toujours le degré le plus bas dans l'accès à la vérité, même si l'opinion peut aussi traduire... peut traduire un accès à cette vérité, à cette connaissance de Dieu. Mais bien sûr, la foi ne peut pas être juste la croyance. Alors, on pourrait gloser 2 heures sur le mot croyance, mais ici, j'appelle croyance tout ce qui peut finalement peupler nos représentations. On a tous plein de croyances qui ne sont pas forcément d'ailleurs religieuses. Et d'ailleurs, on a besoin de ces croyances, illusoires ou non, pour avancer, pour... voilà. Mais voilà, mais la foi que l'on va découvrir, la foi d'Abraham lorsqu'il sacrifie ou lorsqu'il élève Isaac sur le mont Moria, évidemment, ça n'est pas une croyance, ça n'est pas de la doxa. La foi n'est pas non plus un savoir au sens où la quête philosophique antique a pu le vouloir, ou ce qu'on a appelé quelquefois la gnose, hein, la connaissance, la gnose au non-menteur, comme disent les pères de l'Église, saint Irénée notamment, c'est-à-dire que la gnose se présente comme la connaissance. La foi est en compétition avec la gnose, parce que la foi aussi est un mode de connaissance, mais un mode de connaissance nocturne. Hein. Lux umbrae, c'est la lumière de l'ombre, comme le rappelait un de mes confrères ce week-end. La lumière de l'ombre, il y a une connaissance propre à la foi, une connaissance qui va très très loin, mais qui n'est pas précisément... une idéologie ou une construction humaine comme peut l'être la gnose. Voilà. Ça n'est pas non plus, la foi n'est pas seulement la pure confession verbale mondaine qui serait liée à une religion instituée. Voilà. C'est très bien de dire credo en latin ou en français d'ailleurs dans nos offices. Bien sûr, il faut le dire communautairement, liturgiquement, ça a un sens. C'est un lieu essentiel de construction et d'élaboration de la foi, mais évidemment, cela ne suffit pas. Il y a ce moment de la rencontre intérieure et intime et personnelle et singulière qu'évidemment l'expérience d'Abraham, chevalier de la foi, comme dit Kierkegaard, qu'Abraham représente dans toute sa pureté et son exigence. Donc voilà, tous les effets de sens de la foi biblique, c'est ça, confiance, fidélité à la parole des pères, ça c'est essentiel. Les pères ont transmis une parole, on est fidèle à cette parole. Il y a une forme aussi de lien à l'obéissance, c'est-à-dire à l'écoute, à la crainte de Dieu. Vous savez, on utilise cette formule dans la Bible, la foi, la crainte de Dieu, qui est le début de la sagesse, qui n'est pas une crainte servile, mais qui est la joie de la fidélité. Et aussi, autre effet de sens, en plus de la fidélité, de la crainte de Dieu, de l'obéissance ou de la confiance, il y a la reconnaissance. Et je crois que dans la Bible, dans les psaumes, c'est essentiel. On reconnaît que Dieu a agi dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire du peuple. On reconnaît les mirabilia dei, hein, les merveilles de Dieu. On reconnaît que Dieu est proche de son peuple, qu'il accompagne son peuple mystérieusement. Et donc la foi biblique, c'est tout ça. Voilà, qu'on vous propose de découvrir cette année.
Parce que là, ça prendrait effectivement différentes, la crainte, l'obéissance, la confiance, peut-être la révolte aussi, parce que on voit en plein Abraham, il va négocier avec Dieu pour dire mais non, c'est pas possible, tu peux pas démolir cette ville. Donc ça peut prendre tout un. Mais finalement, ce qui serait peut-être mieux, c'est une certaine relation, une certaine rencontre, mais rencontre encore. Ça supposerait d'avoir ce contact avec Dieu, peut-être cette. Il y a des gens qui confondent la foi avec l'émotion finalement spirituelle, avec la. Voilà, on se dit. Il y a des gens qui nous disent mais j'aurais bien aimé avoir la foi, comme si c'est quelque chose qui tombait dessus, tout d'un coup on est bouleversé de la présence de Dieu. Ça peut arriver, il y a des gens qui vivent ça, évidemment. C'est une expérience mystique ou alors un sentiment religieux. La foi, il peut y avoir cette dimension-là, mais pas forcément. Et donc. je trouve que c'est intéressant ce que tu disais autour de la de distinguer de l'opinion. C'est vrai que quand on entend dans la rue, les gens disent, voilà, oui, j'ai la foi, je crois que Dieu existe, mais en fait, bon, je suis pas pratiquant. À ce moment-là, est-ce que c'est la foi ? Non, c'est une opinion à ce moment-là, effectivement. Puisqu'il n'y a pas ce lien, il n'y a pas ce lien. Alors que, à contrario, quand Jésus, sur la croix, mais je crois que c'est un des textes qu'on a pris, dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est coupé de Dieu à ce moment-là. Il est dans l'erreur de dire que Dieu l'a abandonné, évidemment non. Mais il continue à chercher Dieu, il continue à s'adresser à lui. Donc vous voyez, il y a encore un lien qui n'est plus de l'ordre de l'expérience mystique du contact avec Dieu, même lui. Il est dans une opinion erronée, dans un sens, puisqu'il pense que Dieu l'a abandonné, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Enfin, se disant, il cite un psaume.
Se disant, il cite
c'est
un psaume.
C'est donc une prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu
donc,
abandonné ?
C'est une prière, c'est littéralement une prière. Et donc à ce moment-là, il est encore dans une recherche de Dieu et dans un dialogue avec Dieu, même si c'est dans le reproche. Donc je crois que oui, fondamentalement, c'est un lien avec Dieu quelconque. Et quand je crois que c'est Pascal qui dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé ». Quand on cherche Dieu à tâtons, justement, on ne l'a pas trouvé. Mais si on l'avait trouvé, à la limite, ce ne serait même plus la foi. Ce serait, une fusion, je ne sais pas comment dire. Ce qui ne peut jamais être tout à fait le cas, bien sûr, puisque nous ne sommes pas Dieu. Donc, c'est un lien, quel qu'il soit, un lien qui nous rattache à Dieu, ne serait-ce que par une espérance, par une recherche, par une attente, ou par une expérience mystique, ou par une révolte, ou par une crainte, ou par une obéissance, ou par quelque chose. Mais qui fait lien, je crois. Qui fait lien. Alors c'est vrai que tu disais que dans d'autres religions, ce n'est pas une évidence. C'est vrai que la foi, et là je suis reconnaissant donc à ton église de nous avoir proposé ce thème, parce que ça semble évident, mais c'est comme beaucoup de choses qui semblent évidentes, ça l'est moins quand on commence à se demander ce que c'est en fait. Comme dirait Saint Augustin avec le temps, on sait tous ce que c'est que le temps, mais si on me dit « dis-moi ce que c'est que le temps », ben en fait on est bien en peine hein, en fait, de dire ce que c'est, parce que le passé n'existe plus, le présent, l'avenir n'existe pas encore, et le présent, c'est évanescent. La foi c'est pareil. Mais c'est central aussi bien dans le Premier Testament que dans le Deuxième. D'autres religions, par exemple peut-être l'islam, c'est plus sur le mode de l'obéissance. D'autres religions, ce serait plus l'ordre de la méditation, de la sagesse, peut-être le bouddhisme, je ne sais pas. C'est pas ce lien avec Dieu, vous voyez. Il n'y a pas cette notion-là. D'autres religions, ce serait peut-être plus le rite, par exemple le judaïsme. Je ne sais pas si la foi est aussi centrale pour nous, malgré notre écriture commune, que pour le judaïsme. Ou effectivement, ce qui est fondamental, c'est les mitzvot. Mais il y a de la foi derrière, bien sûr. Hein. Pour certains types de chrétiens, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, quand même. Il faut confesser avec sa bouche une croyance fixe et donnée. Alors ça peut se trouver dans le protestantisme comme dans le catholicisme en fait. Des gens qui se rattachent profondément à une croyance, une dogmatique, une affirmation de la foi. Donc il y a certains, par exemple les chrétiens, les évangéliques chez nous, c'est un petit peu l'aile, je ne sais pas si c'est l'aile droite ou l'aile gauche chez nous. Je ne me sens pas très proche d'eux, beaucoup plus proche des catholiques que des évangéliques en fait, mais... bon, pour eux, il faut croire que Jésus a donné sa vie pour nous, pour payer la rançon. Et puis, à ce moment-là, si on le croit et qu'on reconnaît comme sauveur personnel, à ce moment-là, on est sauvé, on est au bénéfice de ce système, si vous voulez. Et si on ne croit pas à la Trinité, si on ne croit pas à ceci, si on n'est pas baptisé comme cela, ben, on n'est pas dans le bon. Donc, vous voyez, on a une tradition très forte. Je pense que, oui, nous, on est plus dans le domaine de la foi et de la raison. Alors, on étudiait Thomas d'Aquin lundi avec un groupe. Et c'est ça, je crois qu'il a bien mis en valeur ça, cette articulation entre un certain optimisme pour l'homme qui est capable, par sa raison déjà, de chercher Dieu, de connaître quelque chose, et puis la place pour la foi qui va au-delà de la raison, mais une réconciliation entre foi et raison. Tu disais que c'est plus évident au XXe siècle ou au XXIe, j'en suis pas, peut-être au XXe, peu moins au XXIe.
Après le XIXe siècle, parce que le XIXe siècle a consommé le divorce.
C'est vrai, c'est vrai. Oui.
Mais il y a eu des époques d'alliance extraordinaires. Saint Thomas, le XIIIe siècle.
XIIIe siècle, le XVIIIe, on a redécouvert ça, en particulier avec bon, Pierre Bayle, Spinoza, ou Richard Simon, des oratoriens. Mais j'ai l'impression qu'à la fin du XXe, début XXIe, on retrouve des fois même chrétiennes, du rite qui est déconnecté de la raison, vous voyez, de l'émotion religieuse. On recentre sur l'émotion religieuse. Alors, je ne sais pas, pour vous donner des exemples, mais ça peut se trouver. Voilà. Des gens qui sont pro-foi du charbonnier, si vous voulez, pro-émotion religieuse, pro-rite, et qui se méfient comme de la peste de la raison, et qui disent « sacrifier la raison, c'est un acte de foi ». Ce que je ne pense pas du tout nécessaire, en particulier avec Jésus, si vous savez, qui a mis... il y avait ce triptyque qui est dans le chemin Israël, que tous les juifs ont cloué sur la porte de montant de leur porte. Écoute, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un, tu écouteras, non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Cœur, âme et force. Et Jésus rajoute, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, de toute ta réflexion personnelle. Et il le met comme quatrième pilier de la foi, je vais dire. C'est-à-dire de ce lien vers Dieu. Et donc oui, la raison, l'intelligence est aussi, je dirais, est aussi de la foi, finalement. Quand c'est fait dans une recherche de Dieu, et d'ailleurs je pense que Thomas ne l'aurait pas renié, si, de dire par l'intelligence, par la science, l'observation, la philosophie, on peut déjà être dans une recherche de Dieu, d'une, comme tu disais, une louange, une reconnaissance de ses actes. Et donc, on pourra partir peut-être à la recherche de cela, dans ces textes bibliques, voir ce que c'est que la foi dans ses multiples facettes. Donc. Et on a voulu commencer avec Abraham parce que, en particulier pour l'apôtre Paul, hein, dans les Romains, Romains 4 ou Galates 3, vraiment, on nous cite, je vais vous lire un petit extrait, donc Galates 3, « Comme Abraham crut à Dieu », dans nos traductions, c'est ce qui est marqué, mais le verbe « croire », là, c'est le verbe de la foi, c'est pisteux, pistis, la foi, c'est la confiance en Dieu, j'allais dire. Hein. « Et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont enfants d'Abraham. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi ». Et puis dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Donc on a voulu ouvrir cette réflexion sur la foi en commençant par Abraham, qui est donc le père des croyants avec cette foi.
Et effectivement, à ce texte des Galates, on peut rajouter un extrait de Saint Jean, je ne sais plus dans quel chapitre, où l'on voit les Juifs, puisque Jean dit toujours les Juifs, il ne dit pas les pharisiens ou les milieux du temple, hein, il dit les Juifs disent à Jésus, mais nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes de la descendance d'Abraham, de la semence d'Abraham, et Jésus dit... les enfants d'Abraham, ce sont ceux qui font les œuvres d'Abraham. Et je trouve que c'est intéressant parce que notre année 2011-2012 était sous le signe de l'engendrement. Hein, vous vous souvenez, père, mère, fils, fille, sur l'idée que finalement le salut dans la Nouvelle Alliance nous faisait sortir des liens du sang et du salut par l'appartenance patriarcale, mais que précisément il y avait un engendrement dans l'esprit, et là c'est très beau la réponse que fait Jésus. D'une certaine manière, ça peut nous servir un peu de transition entre l'année passée et cette année. Jésus dit, mais ceux qui sont vraiment les enfants d'Abraham, ils ne le sont pas par généalogie, ils peuvent l'être évidemment, si en plus on l'est par généalogie, c'est formidable, mais ce sont ceux qui font les œuvres d'Abraham. Et les œuvres d'Abraham, bien sûr, c'est cette foi où là, on va voir Abraham confronté à sa propre nuit, puisque on évoquait tout à l'heure la foi éclairée, précisément. Et c'est pour ça que Kierkegaard a fait une lecture extraordinaire dans l'un de ses livres de ce chapitre de la ligature d'Isaac, parce que, bien sûr, on est au-delà ici d'une foi éclairée, on est au-delà d'une foi éthique. On est dans le face-à-face individuel entre le croyant et son Dieu.
Ce que voilà. Tu dis, c'est Jean 8, 38.
Jean 8,
hein,
voilà.
Voilà. Si vous étiez enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham.
Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être lire le chapitre 12 de la Genèse. C'est le début de la geste d'Abraham, du cycle d'Abraham. Abraham s'appelle encore Abraham. Il est encore incirconcis. Et vous savez qu'on peut faire un usage de ces premiers chapitres du cycle d'Abraham, un usage alors soit polémique, soit interreligieux, en montrant bien que le père des croyants est incirconcis à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il représente encore... les patriarches d'avant la loi mosaïque, hein, bien sûr, et puis même d'avant l'alliance dans la circoncision. Bonsoir. Voilà. Si quelqu'un veut bien lire le texte, peut-être. Bien, on lit le texte.
Ouais. Ah, c'est sympa.
Yahvé dit à Abraham : quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai. Je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront tous les clans de la terre. Abraham partit, comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme, Saraï, son neveu, Lot, tout l'avoir qu'il avait amassé et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan. Et ils y arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Yahvé apparut à Abraham et dit : c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. Il passa de là dans la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Là, il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua son nom. Puis, de campement en campement, Abraham alla au Négeb. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays.
Voilà, alors c'est la traduction de la Bible de Jérusalem qui a maintenu abusivement la translittération du tétragramme en Yahvé. Effectivement, il faudrait pas le dire en principe ou... Enfin, on peut le garder, bien sûr. Abraham, c'est le premier nom. Alors, dans la traduction, quitte ton pays, en fait, bon, en hébreu, alors ça c'est très célèbre, hein, en hébreu c'est lech lecha, c'est-à-dire va vers toi, vers le pays que je t'indiquerai. C'est-à-dire que dans l'injonction divine, il y a d'abord ce qui est premier, l'idée que... il ne s'agit pas d'une obéissance servile à un ordre irrationnel. C'est que le Seigneur, en demandant à Abraham de quitter la terre de Chaldée, la terre d'Our, lui montre qu'il va aller vers lui-même, vers sa propre connaissance, qu'il y a évidemment un risque toujours, une aventure à courir, un déplacement à faire pour accéder à soi-même, puisqu'il y a toujours une distance de soi à soi, c'est évident. Donc ça, l'hébreu, grammaticalement, fait sentir cette distance de soi à soi et ce besoin d'être mu par quelqu'un d'autre, par un appel, par une vocation pour se déplacer. Et je fais aussi une remarque sur le pays que je t'indiquerai. En hébreu, c'est le pays que je te donnerai à voir. Et effectivement, Abraham est vu comme un prophète. C'est-à-dire que le prophète, ça n'est pas un voyant, ce n'est pas quelqu'un qui voit des choses que les gens ne voient pas, ce n'est pas quelqu'un qui entend des voix non plus, c'est quelqu'un qui va là où les gens ne voient qu'un sens littéral, ou ne voient que de la banalité, ou ne voient rien. Le prophète est celui qui donne du sens, qui va dire là où tout le monde entend quelque chose de banal, il dit non, non. Écoutez, il y a autre chose qui est dit, il y a autre chose qui est suggéré dans un texte. Par exemple, enfin, je suis prof de lettres, c'est pour ça que je le dis, hein, on est souvent obligé de faire cet effort de réveil pour qu'une phrase qui paraît anodine soit lesté de sa gravité, de son sens. Et ici, c'est un peu ça, le pays que je te donnerai à voir, c'est-à-dire, c'est toi, Abraham, qui va voir, qui va saisir. Alors, on peut dire rapidement, et puis je laisserai Marc commenter, mais ce texte est probablement du 6e siècle, donc de l'époque exilique, évidemment. Il est écrit à un moment où Israël est en déportation. Et donc, évidemment, l'idée du retour, après près d'un siècle en Babylonie, exige une sorte de sursaut. Il faut sortir de la torpeur aussi, de l'installation, pour revenir. Et donc, Abraham est vu comme une figure exodique, une figure exilique qui fait ce mouvement d'arrachement. Et puis, cette promesse, bien sûr, que l'on a entendue, promesse à la fois d'une terre et d'une descendance, c'est essentiel. C'est le rêve de l'Israël en déportation à Babylone, c'est-à-dire retrouver la terre et l'idée d'une descendance, c'est-à-dire l'idée d'un avenir, qu'un avenir est possible.
Alors moi, ce que je remarque d'abord, c'est que, bon, dans ce qui précède, vous voyez, ça commence là au chapitre 12, mais avant, il y a le chapitre 11, si je puis dire, avec déjà le père d'Abraham qui commence à se mettre en route, finalement, en direction de Canaan, mais qui s'arrête en chemin, voilà. Et puis, il y a Abraham qui se marie avec Sarai. On dit qu'elle était en fait stérile, mais on ne dit rien d'autre. Et puis, le texte commence vraiment comme ça, si vous voulez. « Yahvé dit à Abraham ». Et ça, c'est quand même assez rare, en fait. C'est-à-dire que Abraham n'a rien demandé à personne. Et puis, tout d'un coup, boum, ce qu'on traduit par Yahvé, on peut traduire l'Éternel, ou parfois c'est marqué le Seigneur, bien que j'aime pas du tout cette traduction, le Seigneur, mais...
Adonai.
Adonai, on peut dire Adonai, mais Adonai, c'est le Seigneur aussi, c'est une autre question. Donc si vous voulez, ça, je crois que ça exprime vraiment la grâce, c'est-à-dire c'est Dieu qui est à la recherche de l'homme, et peut-être que le fondement de la foi, c'est d'abord ça, c'est-à-dire que la foi est quand même réponse à ce Dieu qui se rend présent et qui nous précède. Alors, quand on lit les commentaires des rabbins pour ça... Ils disent, en fait, non, c'est pas marqué, mais la tradition l'atteste. Abraham était d'une patience, d'une recherche de Dieu extraordinaire quand il était donc en chemin à Téra. Enfin, non, Téra, à Charan, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, le pays où il s'est arrêté là. Déjà la recherche, l'attente d'Abraham était comme une étincelle qui va déclencher le feu divin. Moi, dans la littéralité du texte, je crois que ça, pour nous, chrétiens, c'est quelque chose qui nous est cher, parce qu'en fait, nous ne faisons pas une lecture juive du Premier Testament, on fait une lecture avec le prisme, la clé de lecture de ce que nous apprend le Christ, bien entendu. Et pour nous... comme dit l'apôtre, en fait, nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimé le premier, en Christ en particulier. Mais là, c'est ça. C'est-à-dire que je crois que vraiment, c'est Dieu, quand il est marqué Yahvé, c'est Dieu en tant qu'il est pardon, qu'il est grâce, qu'il est accompagnement, qu'il est... c'est pas Dieu quand il est appelé elle, si vous voulez, comme dans Bethel, ou comme quand il y a marqué simplement Dieu dans le texte biblique, de l'Ancien Testament, ce Dieu-là, elle, c'est un Dieu fort qui crée, qui est un Dieu plutôt macho. L'Éternel, dans un certain sens, ou Yahvé, YHWH, c'est un Dieu de tendresse maternelle, un peu. Et ce Dieu de tendresse maternelle, c'est lui qui se rend présent auprès d'Abraham et qui lui propose ça, voilà, va pour toi, ou va... va-t'en de toi, peut-être, aussi, ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de se mettre en route, en cheminement, donc oui, il faut s'arracher, mais va pour toi, ça peut être sympathique de lire ça comme ça aussi, c'est-à-dire il y a marqué que c'est au bénéfice pour toi-même, c'est pas simplement se sacrifier, il y a l'idée de trouver la vérité de son être aussi, peut-être, dans ce mouvement. C'est ce qu'on voit un peu après, dans les promesses du verset 2, finalement. Mais il y a l'idée de s'arracher à son pays, c'est à une terre, oui. Alors, bien sûr, nous, on ne le lit pas littéralement. La recherche de la terre promise, cet exode, cet exil d'Abraham ou cet exode des peuples hébreux pour rentrer d'Égypte, ou bien ce retour d'exil des Hébreux qui étaient à Babylone, c'est relu dans la foi chrétienne comme une entrée dans le royaume, finalement, hein, c'est-à-dire par cette démarche de foi d'arriver dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui n'est pas simplement la vie future, bien entendu, qui est le royaume de Dieu à vivre aujourd'hui et maintenant. Hein. Heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Il n'y a pas marqué dans la bouche de Jésus « sera à eux le jour des calendes grecques » ou après la mort, je ne sais pas quoi. Non, « est à eux dans le temps présent, au présent ». Et c'est bien ça qu'on a là. « Je te donnerai à voir au cours de ta vie ». Et c'est à peine plus loin, finalement, qu'on nous dit « ben voilà, tu le vois, en fait hein. ». Hein? Et ça, je crois que c'est peut-être aussi une réponse, si vous voulez, parce que quand Marx dit « religion opium du peuple », on vous dit « soyez bien sages dans la vie présente, laissez-vous exploiter, puis vous aurez des trésors dans le ciel ». C'est vrai, je ne dis pas que l'Église, les Églises n'ont jamais dit ça. Mais en tout cas, ce n'est pas très biblique, si vous voulez. Ce n'est pas très biblique. Donc, c'est une critique, un dévoiement, je crois, de la parole chrétienne, biblique, juive aussi. C'est dire, voilà, non, il y a une mise en route. Ce n'est pas une mise en route contre nous-mêmes, c'est une mise en route où, dans ce cheminement, c'est un cheminement de foi où nous recevons de Dieu aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une bénédiction, d'un supplément d'être, de dignité, de conscience de sa dignité. Un supplément de création, hein, parce que quand il y a marqué « je ferai de toi », ce verbe « je ferai », c'est le verbe « assa faire », comme dans le début de la Genèse, il y a marqué « Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». C'est vraiment le verbe de la création, si vous voulez, un des verbes de la création. « Assa », c'est pas... si vous voulez, il y a l'idée que Dieu, dans ce mouvement auquel il nous invite... et auquel nous pouvons répondre par la foi comme Abraham, il est comme une genèse de notre être. Et que dans cette vie, mais finalement, peut-être pas immédiatement, parce qu'on voit, bon, Abraham, il faut quand même qu'il chemine un peu pour voir un peu le pays, pour voir la descendance, ça va être plus long. Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut toucher des mains, voir des yeux, une pacification de son être, un épanouissement de son être, un cœur de chair, de pierre qui devient un petit peu un cœur de chair, un certain nombre de choses qui, déjà, on peut toucher et voir dans notre existence, peut-être, dans cette mise en mouvement. Alors, qu'est-ce que ça peut vous dire ? Va pour toi. Peut-être aussi, c'est le seul à seul avec Dieu, finalement, parce que la foi peut y avoir une dimension collective, mais là, Abraham, c'est quand même... J'ai quand même la foi seule, si vous voulez, la foi de la personne seule avec son Dieu, dans une relation intime. Et quelque part, même la foi collective, elle s'appuie, elle se décline dans un face-à-face personnel et intime avec Dieu. Et quand Jésus nous dit, c'est la prédication de Jean-Baptiste, je crois, hein, que nous sommes enfants d'Abraham et que même de ces pierres, on pourrait faire des enfants d'Abraham. Ou quand Paul nous invite à être descendants d'Abraham par la foi, c'est-à-dire que nous sommes aussi appelés à être prophètes au degré d'Abraham, dans un certain sens, c'est-à-dire à être, à ressentir cette mise en route de Dieu pour se mettre à cheminer dans notre existence, pour ne pas être simplement... le produit d'une culture et d'un pays, pas simplement le fils qui, parce que nos parents nous le disent, on sera coiffeur comme le papa coiffeur, ou polytechnicien comme le papa polytechnicien, ce qui est parfois pire encore. Qu'on soit enfin, je veux dire, pas simplement fils d'eux, mais qu'on soit, ou fille d'eux, mais qu'on soit nous-mêmes, et que cette mise en route... On puisse la vivre soi-même, en fait. Hein. Surtout que là, il ne dit pas un mot, Abraham, en fait. Il se met en route, il marche, sa foi est une foi des pieds, finalement, du cœur. C'est, c'est bien, il n'est pas dans une louange extraordinaire.
Tout en découvrant qu'être soi-même, c'est être, se reconnaître fils d'eux, mais pas au sens de fils à papa, mais de se reconnaître dans une filiation. Puisque on avait vu ça l'an dernier, finalement, la conquête de l'identité, c'est aussi le consentement à être précédé. Et on le verra, bien sûr, avec l'épisode du sacrifice d'Isaac, il faut à un moment que le père découvre qu'il y a une place à faire pour le fils. Et le fils ne pourra être père lui-même que si il est l'objet de ce don. Alors, c'est intéressant ce que tu disais sur Abraham comme témoin d'une foi individuelle, singulière, personnelle, parce qu'effectivement, il me revient qu'au verset 2, « Je magnifierai ton nom », c'est-à-dire « Je ferai grand ton nom, je te donnerai un grand nom », c'est l'expression que l'on retrouve aussi, mais je ne suis pas allé voir dans la Bible hébraïque, mais alors là, je « Doctus cum libro », comme on dit, je m'autorise d'un commentaire que j'ai lu, c'est l'expression que l'écrivain biblique utilise pour Babel. Nous allons nous faire un grand nom, nous-mêmes, voilà, de manière prométhéenne, bien sûr, et tout s'effondre, et c'est la dispersion, etc. Une dispersion bien heureuse, d'ailleurs, mais qui est ambivalente. Mais ici, on est évidemment dans autre chose. On recommence une autre histoire, et c'est la relation qui est plus la nôtre, la relation dans la solitude de la foi, dans la solitude de notre être désirant qui enfermé en lui et qui entend cette voix, qui répond dans la foi à cet appel qui retentit au cœur de la personne. Alors, on voit ensuite, parce que ce serait bien qu'on s'attarde peut-être plus sur l'épisode suivant, mais effectivement, ce que je suggérais tout à l'heure, c'est à ta postérité que je donnerai ce pays, au verset 7. Donc il y a vraiment la promesse de la terre et la promesse d'une descendance, un espace et un temps qui s'ouvrent à nouveau. Ces textes sont écrits dans les milieux des Kohen, les Kohen, les Kohanim, les prêtres, les milieux sacerdotaux au moment du retour donc, d'exil. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui inventent Abraham, attention, la figure d'Abraham était transmise par tradition orale ou dans des épopées plus ou moins recousues les unes avec les autres. Et ils ont fait ce travail de lissage et de fusion des textes et de réécriture dans un sens qui est quand même, on va le voir, qui est avec l'épisode du mont Moria, puisque le mont Moria, c'est selon la tradition, c'est Jérusalem, et le lieu du sacrifice d'Abraham, c'est le lieu du temple. Donc vous voyez qu'il y a une réécriture un peu de nature idéologique pour refonder Israël et l'Israël du temple au moment du retour d'exil. Et puis, autre remarque, à la fin, vous voyez qu'il part en Égypte, et l'Égypte, alors l'Égypte, c'est la terre de perdition, la terre d'idolâtrie. Et évidemment, on voit déjà dans ce petit chapitre 12 que la foi n'est jamais pensée sans le contraire. Et le contraire de la foi dans la Bible, ce n'est pas l'athéisme, ça c'est des réalités évidemment très modernes. Le scepticisme ou que sais-je, c'est l'infidélité. La foi, c'est la fidélité dans ce texte, la fidélité à une parole reçue, et la foi, c'est l'infidélité. Et l'Égypte, évidemment, c'est cette figure très ambiguë de la tentation pour le peuple hébreu. Et on sait, si vous connaissez un petit peu la suite, que Abraham, du coup, va être tenté de tricher, il va faire passer Sarah pour sa sœur, pour sauver sa propre vie, parce qu'il dit, si on sait que tu es ma femme, moi, ils vont me tuer, puisque tu es si désirable, ils vont te convoiter, ils vont tuer le mari, donc surtout, dis que tu es ma sœur, comme ça, par égard pour toi, ils vont... voilà. Donc, tout ça se termine très mal, le Pharaon l'apprend, et Pharaon renvoie tout le monde en Canaan. Donc, vous voyez que la terre promise, la terre des promesses, où coule le lait et le miel, Abraham s'en écarte très très vite d'ailleurs. Donc, la tentation de l'infidélité dans la foi, elle est déjà là. Parce qu'évidemment, on a statué Abraham et on a raison, mais il y a, Il y a déjà, et ce qui est extraordinaire, c'est le génie de la Bible, c'est de ne jamais cacher ces moments-là, de ne jamais s'offusquer des manquements, du péché, de l'infidélité. Non, on la montre parce qu'elle est, elle est structurelle, elle est humaine, tout simplement.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, avec la descendance, la postérité, mais aussi avec ce qui est mal traduit, à mon avis, là, dans le verset 2, « Sois une bénédiction », il y a marqué « Tu seras une bénédiction ».« Tu seras bénédiction », même. « Tu seras bénédiction pour un grand nombre de personnes ». Et donc, c'est-à-dire que la foi est une réponse à la grâce. C'est une foi pour toi, c'est-à-dire quelque chose d'assez individuel, je crois, dans ce face-à-face avec Dieu, cette rencontre, et tout d'un coup, ce sentiment d'être béni, c'est-à-dire vraiment de recevoir un supplément d'être en alliance, en relation avec Dieu, de recevoir ces sentiments d'une dignité, je dirais, incroyable, au-delà de ce qu'on serait capable de faire, parce qu'il n'a encore rien fait, ce brave Abraham, il est même stérile, ce qui n'est pas tellement glorieux. Dans ce contexte, hein, je veux dire, pas dans aujourd'hui, on ne voit pas les choses différemment. Mais enfin bref, il reçoit tout ça, c'est très face à face avec Dieu, mais tu seras bénédiction, on parle d'une descendance, etc. C'est donc, ça sera, tout de suite, ça s'articule vers une mission, une vocation, vers une éthique. Et c'est ce qu'on voit dans le verset que tu disais dans l'Évangile selon Jean. Il s'agit des œuvres d'Abraham, et ces œuvres d'Abraham, ça s'articule immédiatement sur une éthique, en fait, sur une... être bénédiction pour d'autres. Et la bénédiction, c'est aussi une vocation, c'est aussi une mission. Une mission dans une certaine liberté. Il y a marqué, voilà, le cheminement, il te mènera au pays que je te montrerai, mais l'itinéraire entre les deux est quand même très largement libre. Et on va le voir, cet Abraham, finalement libre, est flotté dans cette liberté. Et je crois que ce que tu disais sur l'Égypte, c'est bien ça, parce que l'Égypte, je trouve, ça incarne dans la Bible... C'est pas nécessairement l'idolâtrie, c'est plutôt l'industrie humaine. Alors, c'est assez correct d'utiliser l'industrie humaine pendant un temps de famine, d'aller se nourrir et ressortir. Mais il ne faut pas s'y perdre, en fait. Il ne faut pas s'y perdre, il ne faut pas s'y installer. Il ne faut pas que ce soit un lieu de foi, finalement. Il ne faut pas avoir foi là-dedans.
Le management...
On peut faire preuve de management, on peut se dire...
Comme...
Oui, ça peut être ça, ça peut être... les investissements, ça peut être comme dans, comme avec, par exemple avec Joseph, se dire bah il y a 7 ans de vaches maigres, donc il va falloir stocker le blé pour redistribuer, etc. Cette bonne gestion, c'est aussi par Dieu qu'on peut être amené à le faire pour s'organiser et donner à manger aux pauvres. Si on s'installe là, des générations uniquement dans cette dimension-là, ou si comme Abraham, mais peut-être. C'est une tentation, et je crois que c'est simple, c'est génial de l'avoir mis là. Tant pis pour Abraham qui en prend plein pour son grade. Mais de dire, fort de cette bénédiction, de cette liberté, de cette dignité extraordinaire qu'on ressent par la foi, ben allons-y franco, j'y vais, je cours, je fais à mon idée. Et dans cette fierté, finalement, ben d'oublier de s'appuyer sur Dieu jour après jour, et dans cette élévation... Parce que Abraham, ça veut dire père élevé. Abraham, ça veut dire père élevé. De se sentir élevé, de se dire, bah, j'y vais, je vais faire selon mon idée, seulement. Alors oui, pour la liberté, mais il y a quand même cette... Et c'est vrai que c'est épouvantable. L'épisode avec Sarah est à faire dresser les cheveux sur la tête est absolument odieux. C'est inexcusable.
Et c'est intéressant ce que tu dis. Je pense à ce que disait un jour... le grand rabbin Gilles Bernheim, qui me disait qu'effectivement, Abraham, dans ces épisodes-là, n'a pas fait son Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est donc la fête de début d'année où on remet les pendules à zéro. Pas seulement les péchés qu'on oublie ou les dettes qu'on efface, mais aussi les mérites. Croire qu'on peut s'enorgueillir des mérites du passé, que finalement, on peut vivre sur ce magot de mérites que l'on s'est constitué. Parce que c'est la tentation d'Abraham qui il a cru et qui peut du coup effectivement se dire que voilà la terre des promesses est à lui,
il est béni, tout ça,
il est béni, etc. Or il y a cette expérience de Rosh Hashanah à faire, c'est-à-dire de découvrir que, et c'est vrai, à chaque moment de la vie, qu'on ne peut jamais se prévaloir des titres que nous ont valu le passé, voilà. Qu'il y a toujours cette part du vieux et cette part du jeune, comme disent les rabbins, Et que peut-être est-ce le sens, d'ailleurs j'anticipe, mais lorsque Abraham sacrifie un bélier et non pas un agneau, hein, on va le voir, c'est cette partie de l'ancien qu'il renonce, hein, et voilà, et il laisse le fils être finalement, et c'est ça la foi, hein. Là, bon, là j'anticipe beaucoup, mais voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade déjà pour, par rapport, parce que vous avez le droit de participer quand même, alors nous c'est vrai que...
C'est un groupe œcuménique.
C'est vrai que on y va, vous pouvez nous interrompre, hein, parce que nous on est là comme ça jusqu'à...
Comme Abraham, on
gambade. On gambade joyeusement, ouais. mais faut pas forcément... Alors c'est vrai que Abraham, ça veut dire père élevé, et il va devenir Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude en fait, ou père d'un peuple, et donc c'est vrai qu'au lieu d'être... élevé, je me monte le nez, et il va, tout d'un coup, il trouve peut-être son être dans le fait de donner la vie et de servir. Et pour Sarah, c'est pareil, elle s'appelait Sarai, c'est-à-dire elle s'appelait ma princesse. Et effectivement, à la fin du chapitre 12, il en use, j'allais dire, comme un objet qu'il possède. Et avec qui il fait du profit, parce que je veux dire, c'est carrément, il est proxénète, hein, et lui, il ne sera pas forcément relaxé au bénéfice du doute. Hein. Si vous voulez, c'est vraiment, il utilise sa femme en la présentant comme sa sœur pour ramasser des sous, des dots et des machins. Donc, je veux dire, c'est quand même, je suis désolé, mais c'est pas, c'est un peu limite, hein. C'est une limite franchie. Voilà. Donc, de Sarai, ma princesse à moi, c'est-à-dire ma chose, il va s'appeler Sarah. Tout court, sans le i à la fin qu'elle possessive, c'est-à-dire princesse, c'est-à-dire une personne qui est sa femme, certes, mais qui est princesse par elle-même, c'est-à-dire que c'est longtemps demandé si les femmes avaient une âme, apparemment, eh ben oui, semblerait-il, puisqu'elles sont princesses, c'est-à-dire elle est faite pour être princesse et pas simplement l'objet du désir des hommes ou de la possession des hommes, ce qui est quand même une grande nouvelle, une grande avancée à mon avis. Et donc effectivement, on peut se réinventer l'Antiquité profonde assez facilement. Mais je veux dire, le fait d'avoir la femme possédée par l'homme comme un objet, c'est vrai que, ou les enfants possédés par les parents, oui, ça va vite. Donc là, il découvre un autre rapport avec sa femme et du coup, leur couple pourra être fécond. Mais tant qu'il n'y aura pas eu cette démarche, le cheminement d'Abraham, si vous voulez, entre cette promesse d'une descendance au chapitre 12 et l'enfant au chapitre 18, ça prend quand même 6 chapitres. Ça prend tout un itinéraire qu'il faudrait faire suivre pas à pas pour... que finalement son couple, que la promesse puisse se réaliser dans sa vie personnelle. Et cet itinéraire, finalement, c'est un itinéraire pas simplement géographique, bien entendu, parce que les gens ont beau dire la collinette du mont Moria, pour lequel les gens se battent comme si c'était un lieu sacré, évidemment, c'est un peu risible, si vous voulez. C'est pas le fond de la question de ces textes qui invitent d'abord à un itinéraire de conversion, d'élévation de son être, de cheminement, de transformation de l'être. C'est-à-dire de changement de son nom, finalement. Oui, de changement de son nom propre. On comprend comment on comprend son être et puis les êtres qui sont autour de nous. Et c'est alors qu'on peut s'ouvrir vraiment à la promesse de Dieu. Voyez, il y a cette peine de Dieu pour que la promesse se réalise en Abraham, en fait. Il faut cet itinéraire de cette genèse. Et on va le voir dans le chapitre 22, c'est terriblement, j'allais dire encore.
C'est au chapitre 17 qu'il y a le changement de nom.
Oui, c'est au chapitre 17.
Voilà.
Au moment de la circoncision.
Et au chapitre 18, il va pouvoir enfin accueillir les anges et que, que la fécondité s'ouvre.
Et c'est au chapitre 15 qu'il y a le fameux verset « Abraham crut dans le Seigneur et cette foi lui fut compté comme justice. » C'est-à-dire, c'est la traduction la plus courante, c'est-à-dire l'idée que la foi justifie. On sait quel usage on peut faire d'ailleurs de ce verset. La foi justifie, c'est-à-dire que ce ne sont pas les œuvres qui justifient, mais l'adhésion au dessein de Dieu. Voilà. Abraham crut dans le Seigneur et cette foi lui fut comptée comme justice. Alors il y a tous les épisodes avant, bien sûr c'est le conflit avec Lot hein, qui se termine par un compromis, puis une guerre apocalyptique qui se termine par la rencontre avec Melchisédek, le chapitre 15, le 17 qu'on évoquait, et puis la naissance d'Isaac. Voilà. Et on arrive au chapitre 22, celui de l'Akeda. Akeda en hébreu c'est la ligature, hein, Les Juifs ne parlent jamais du sacrifice. Le mot sacrifice est extrêmement complexe. Le système sacrificiel au temple était très très compliqué. Hein. Le sacrifice dont on pourrait éventuellement parler ici, c'est ce qu'on appelait la Ola, qui était l'élévation et qui était souvent un holocauste, c'est-à-dire où la victime était entièrement consumée et donc offerte à Dieu. Et c'était un sacrifice dit d'agréable odeur. Il y avait des sacrifices, sacrifices de communion, sacrifices pour le péché, les offrandes aussi végétales et les holocaustes qui étaient appelés sacrifices d'agréable odeur. Voilà. Alors, la tradition rabbinique parle plutôt de l'akeda. Akeda, c'est la ligature, puisque Isaac est lié, ligoté. Sur l'autel. Voilà. Alors, on a vu dans ce texte, évidemment, l'écho d'un interdit du sacrifice d'enfants, puisque il y a deux références. Alors, dans les textes de l'époque royale, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'histoire de Théronomie, tout ce qui est avant l'exil, hein, c'est-à-dire dans les juges, Josué, les juges, les rois, et, enfin Samuel et les rois, il y a des rois, les mauvais rois, dont on dit qu'ils sacrifient des enfants. Voilà. Et d'autre part, il y avait la tradition très ancienne, très archaïque, de sacrifier le fils premier-né. Évidemment, on n'a aucune trace de cela, mais on sait qu'il fallait offrir un sacrifice de substitution. Un sacrifice animal dont on trouve ici, bien sûr, le récit un peu exemplaire. Voilà. Donc, on peut voir dans ce récit, qui est quand même aussi écrit après l'exil, hein, par les milieux sacerdotaux, donc qui ne sont plus confrontés à ce problème-là. Au VIe siècle, on n'est plus confronté au sacrifice humain. Mais on peut y voir, bien sûr, la résistance dans le récit d'une mémoire qui est celle de l'interdit du sacrifice d'enfants qui aurait été une réalité à l'âge de bronze, ou peut-être même au début de l'âge de fer, donc 12e, 11e, 10e.
Voilà. Ou alors à qui ils auraient été en contact en exil, non?
Ah oui, bien
parce
sûr.
Parce que dans ces pays là-bas, c'était écrit à cette époque-là, et c'était assez... Oui. Ouais.
Et,
parler
de Lot, c'est le troisième fils de...
Lot, c'est le neveu d'Abraham.
Le fils du frère.
C'est pas le fils d'Adaël ?
Non. Ah non, c'est Seth, le troisième. Vous pensez à Caïn et Abel et Seth. Mais ici, c'est Lot. Voilà.
Donc, il faut lire peut-être ce texte.
Oui. Très beau texte. Oui. Je vous dis. Non ?
Sinon, moi, je vous le lis. Hein.
D'accord. Ah, monsieur, ah,
Jean-Claude,
voilà.
Merci.
Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit, « Abraham, Abraham, il répondit, me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva tôt, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas. » Nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit « Mon père !» Il répondit « Oui, mon fils. » « Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Yahvé.
De Yahvé pourvoir, oui. Il faudrait mettre des guillemets en fait.
Oui. En sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne, Yahvé pourvoir. L'ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel et dit « Je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. » Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. Abraham revint vers ses serviteurs, et ils se mirent en route ensemble pour Beersabé. Abraham résida à Beersabé.
Alors, quelle est la foi qui est ici? Est-ce que c'est une foi, donc, ça nous invite à une foi aveugle? Et donc, on nous demande quelque chose d'absolument épouvantable, inadmissible, et puis contre la raison, finalement, parce qu'on nous dit, voilà, ce fils, c'est la bénédiction de Dieu, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, ben vas-y, et coupe-le en rondelles. Donc, est-ce que c'est... on pourrait se dire, voilà, c'est la foi, doit renoncer à toute raison, obéir aveuglement à ce que demande Dieu, et puis, sans une hésitation, me voici, hop, on se lève tôt le matin... Et on y va, tranquillement. Moi, je dis que je crois que ce n'est pas possible, en fait. Ça dépend, on peut voir différemment cette histoire. Mais moi, je crois que Abraham a mal compris. Et que ce qui est dit là, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en sur le pays de Moria. Moria, ça veut dire littéralement, le Yahvé, en fait. Et Mori, ça veut dire c'est élevé, en fait. Donc c'est Yahvé qui élève, c'est ça, cette montagne, ce pays où c'est Dieu lui-même qui élève. Et là, tu offriras ton fils en holocauste. Il n'y a pas marqué ça, il y a marqué tu élèveras ton fils. C'est-à-dire que Abraham était dans son trip et il pensait, il faut finalement faire plaisir à ce Dieu qui, il faut que. Je fasse monter mon fils en holocauste, parce que le verbe holocauste, en fait, on dit un holocauste, ça veut dire une montée, en fait. Et donc, élève ton fils, et il comprend, envoie-le en fumée. Effectivement, ça, pour l'élever, ça l'élève, mais c'était pas peut-être le projet, si vous voulez. Oui.
Qu'est-ce que vous avez comme idée de ce que pouvait être le mal, le diable, enfin, j'aurais pu se tromper, avoir en somme un appel de...
Ben ça, c'est intéressant, je trouve.
Dieu, mais...
Les rabbins des premiers siècles de notre ère l'expliquaient comme ça, en disant que c'était un malin génie, que ce n'était pas Dieu. Donc ils avaient, un peu comme le fait Marc là, moi je suis un peu comme Kierkegaard, moi je suis... Oui. Les rabbins disaient ça, effectivement, c'est pas Dieu, c'est pas possible, parce que tu ne tueras pas, tout simplement. Donc, au moment de la séparation du judaïsme et du christianisme, au début de notre
cette interprétation, c'est pas moi qui l'invente, mais si vous voulez.
Ils ont du mal à s'en sortir. Hein. Moi, j'ai assisté à une étude sur ce texte. Moi, je trouve ça. Moi, je voulais plus aller au catéchisme. Donc je veux dire que non, mais c'est vrai, c'est abominable, parce qu'on se l'enfant il se dit ah bon bah alors si mes parents obéissent à Dieu alors ils vont tuer, c'est abominable de raconter ça.
Oui, et parce puis moi je crois que vous avez raison, c'est difficile de faire le tri même en soi-même entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'autre chose, parce que là on a l'impression dit
pour les talibans maintenant, n'est-ce pas?
Oui, mais même pour nous-mêmes, si vous voulez, pour nous-mêmes dans la prière. Oui, mais pour nous-mêmes, si vous voulez aussi, parce que dans la prière, même de toute bonne foi, on s'ouvre à Dieu et on se dit, est-ce que Dieu parle comme ça? Vas-y, prends ton fils, ton unique, est-ce que Dieu met un papier ou une table en pierre avec des caractères bien marqués, on peut en faire l'exégèse et on se dit, bon, il peut y avoir des problèmes d'exégèse, je me trompe un peu sur ce que Dieu me demande, mais enfin bon, j'ai une table de pierre avec marqué des belles lettres. Ben non, Dieu parle. Quand on dit que Dieu parle, c'est une façon de parler, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix comme ça, sauf peut-être Jeanne d'Arc avec Boute les Anglois hors de France, mais j'ai des doutes aussi, si vous voulez. Je pense que ça peut s'exprimer comme ça, mais la voix de Dieu, ça s'exprime au plus profond de nous-mêmes, comme une impression, comme une idée, un supplément d'être, quelque chose comme ça qui nous est proposé. Donc c'est pas si clair que ça. Et à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a pas que la voix de Dieu. Il y a, oui, je pense, la voix de Dieu qui s'exprime. Parce que l'Esprit de Dieu est donné à chacun. Nous sommes tous appelés à être prophètes. Mais il y a d'autres choses qui s'expriment. Il peut y avoir des blessures anciennes, il peut y avoir des désirs très profonds, légitimes, il peut y avoir des émotions qui nous ont... on a vu un reportage 3 jours avant sur les biafrais, et puis tout d'un coup on se dit qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, et tout d'un coup mon désir de bien faire et puis une émotion que j'ai vécue il y a quelques jours tout d'un coup se mêlent et me disent ben voilà, Dieu m'envoie nourrir les biafrais avec des sacs de riz sur l'épaule. Peut-être pas, si vous voulez. Donc c'est là, vous avez raison, faut bien faire le tri avant de se dire voilà, Dieu m'envoie pour être missionnaire chez les papous, chez les talibans. Peut-être pas, peut-être oui. Il faut discerner, il faut creuser, et il faut être, je crois, justement dans cette foi qui reste en éveil. C'est-à-dire, on se dit, ah, peut-être que Dieu me dit ça, il faut avoir cette humilité, se mettre en chemin, et puis ruminer ça, en discuter, peut-être comme tu le disais, aller voir par rapport au Père, à ce que, hein, pour discerner ce que Dieu me dit vraiment.
Mais qu'est-ce qu'ils avaient comme enseignement pour arriver à ce discernement, justement, à l'époque?
À l'époque de la rédaction de ce texte, ils ont...
Il y avait de ces choses-là. Il n'y avait pas de discrimination sur... très sérieuse, en fait, sur ce qu'ils pouvaient...
À l'époque de la rédaction de ces textes, si vous voulez... Alors bon, Abraham, à mon avis, Abraham, est-ce qu'il y a eu un monsieur Abraham? Dieu le sait, peu importe. Mais cela dit, de toute façon, si vous voulez, c'est quand même... Dans ces textes, il y a... toute une tradition immense de réflexion théologique, de prière, d'ouverture, de débat et de choses comme ça. C'est pas simplement un homme qui un matin s'est dit ça me pète comme ça d'écrire un joli conte, si vous voulez. C'est beaucoup plus maturé que ça.
Moi je... Oui.
On a l'impression qu'il y a juste de la distinction qu'il y a entre un Dieu et Yahvé qui est clairement, et l'ange de Yahvé qui est plutôt humaniste, brandoniste, calme, jeu. Quelle est à la fois cette époque, pour le moment de la lecture de l'Ancien Testament, cette différence qu'on peut faire entre Yahvé et l'ange de Yahvé? Est-ce que l'ange de Yahvé, c'est la manifestation humaine?
Ça
la
peut.
La parole humaine de Dieu, est-ce qu'on peut y voir une prémonition aussi de ce qu'est le.
Il y aurait le Dieu pervers et puis le surmoi.
Ouais. Pas très loin, mais quand même, c'est un peu
Je n'allonge qui vient sauver le truc.
Alors, c'est vrai que si vous voulez.
C'est quoi l'ange?
Alors, déjà, la distinction que je proposais tout à l'heure entre Dieu, c'est quand même le Dieu fort, le Dieu du début, Dieu qui s'appelle Dieu, c'est quand même un Dieu qui donne la loi un peu, si vous voulez. Et puis, le Yahvé, c'est un Dieu justement qui vient sauver. Et puis l'ange de Yahvé, l'ange, c'est pas une catégorie d'être, c'est une fonction, un ange en fait. Et donc c'est une parole de Dieu qui se transmet comme ça, peut-être un peu médiatisée, mais ça peut être dans la prière, ça peut être une expérience spirituelle, ça peut être quelqu'un qui nous dit une parole, ça peut être quelque chose que l'on voit dans la nature qui peut nous inspirer, qu'on peut lire comme un signe de quelque chose qui vient de Dieu, ça peut être différentes choses. Et le fait que ce soit comme ça exprimé d'une manière un peu ambiguë finalement, ça permet peut-être de faire le lien avec nos propres expériences. Qu'est-ce qui, au moment où on va faire, j'allais dire, la connerie du siècle, de sacrifier son fils sur un autel, ce qui est quand même dans le genre, est quand même, je veux dire, assez gratiné comme erreur, à mon avis, comme crime même, comme contraire à la volonté de Dieu, eh bien, il y a tout d'un coup un éclair de foi. Dieu arrive à nous rejoindre et à nous faire, comme le disait Jérôme, à être prophète, c'est-à-dire à voir tout d'un coup ce que c'est que la façon de voir de Dieu à ce moment-là, voilà, je dirais, ou ce que Dieu nous propose.
Le prophète, au fond, c'est là qu'Abraham est prophète. C'est l'homme de la mémoire, c'est-à-dire il garde en stockage. Il ne croit pas que la compréhension de Dieu soit immédiate. Et c'est ça le péché, c'est ça l'idolâtrie d'ailleurs, toujours. On évoquait les mouvements évangéliques, toutes les sectes qui pensent que Dieu parle de façon non médiate. Comme ça qu'on peut comprendre et traduire sous forme de slogan, d'une certaine manière. Ce que fait quelquefois la communication contemporaine, c'est-à-dire que la transmission, c'est Régis Debray qui le dit souvent, la transmission c'est le temps, hein, c'est la sédimentation, et puis c'est l'engagement personnel, vital, et puis la communication, quelquefois, c'est uniquement l'espace, hein, c'est une concurrence dans l'espace pour saturer, pour il y a quelque chose d'un peu... une sorte d'expansion de l'ego, il y a quelque chose de l'ubris dans le monde de la communication quelquefois. Et précisément, ici, on est dans un processus de compréhension qui est très lent, qui n'est pas du tout immédiat. Et bon, j'évoquais tout à l'heure un énoncé qui peut paraître anodin, banal, plat, et que le prophète, ou l'artiste, parce que l'artiste est prophète, va voir autrement, il va dire, mais non, réécoutez, là, il y a quelque chose qui se dit, comme disait Deleuze, il y a quelque chose qui se dit, c'est pas juste une phrase, évidemment, on peut tout entendre, aimez-vous les uns les autres, bon, très bien, et puis, le prophète, c'est celui qui va entendre autre chose, et qui va réveiller un petit peu le corps social autour de lui, et l'idée, au fond, qu'on le vit sans cesse dans notre entourage, quelqu'un nous parle, si on l'écoute vraiment, on reprend des gens qu'on aime, des gens qu'on côtoie, on reprend ce qu'ils nous ont dit, et puis l'idée fait son chemin, et tout d'un coup, on comprend autre chose.
Ce qu'il y a derrière.
Ce qu'il y a derrière, alors que si finalement, on a méprisé la personne, on en est resté à un énoncé littéral, sans profondeur, un énoncé sans arrière-plan, sans signification d'une certaine manière, qui devient insignifiant, une sorte de bavardage. Et au milieu du bavardage, tout d'un coup, quelque chose fait sens. Et là, la parole de Dieu, il l'a comprise au sens littéral au début, et puis petit à petit, il y a tout un travail qui se fait, un peu aussi comme s'il réécoutait une cassette, en fait, ou... Quand on écoute une musique, un quatuor de Schubert, selon l'âge qu'on a, selon nos disponibilités, notre disposition intérieure, etc., on n'entend plus ou on entend autre chose. Et là, il y a comme une espèce de musique de la parole de Dieu, du logos de Dieu, qui tout d'un coup... Et j'imagine que pour Abraham, c'est on est au-delà du soulagement, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous remarquez, le texte est très sobre. Très sobre. Au début, on nous dit « Prends ton fils, ton unique. » Et c'est les mêmes mots qu'au début, que dans le chapitre 12. « Va-t'en au pays de Moria », c'est « Va vers toi, vers le pays de Moria. » Va vers la révélation de ce que tu es vraiment. Et comme je sais que tu es mon prophète, je peux te demander ça. Va vers Moria. Et d'ailleurs, il arrive à Moria et on nous dit « Il vit l'endroit de loin. » Vous voyez, au verset 4, c'est comme le processus herméneutique de conquête du sens. On voit les choses de loin, il y a un éloignement, puis il y a une approximation. Et la nomination n'est jamais définitive. On arrive, et puis il arrive sur ce lieu, et puis l'ange du Seigneur. Alors effectivement, est-ce que c'est une instance de lui-même ? C'est là qu'il y a tout un feuilletage spirituel, c'est que il y a vraiment de l'autre, il y a une altérité qui se découvre à lui et qui doit dilater ses puissances de vie, parce que ne pas tuer son fils, c'est quand même ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et moi, je l'entends vraiment comme une expérience prophétique de décryptage du sens et de la découverte de l'identité de ce Dieu. C'est pour ça, à mon avis, que ce texte est... Alors, évidemment, bon, mon cher Kierkegaard, lui, le tire du côté de... un peu comme Tertullien, la foi presque absurde, quoi.
Oui,
c'est-à-dire...
Oui.
Moi, je trouve ça grandiose, mais bien sûr, c'est très dur à tenir. C'est l'idée que, vous savez, chez Kierkegaard, il y a le stade esthétique, c'est le stade des pulsions, de la vie pulsionnelle, c'est le stade adolescent, la toute-puissance, c'est Don Juan. Ensuite, il y a le stade éthique, on choisit une vie, on choisit des valeurs, on s'installe, etc. Et le stade éthique dit « tu ne tueras pas », bien sûr. Et notre raison nous dit « tu ne tueras pas ». Et pour Kierkegaard, il y a le stade religieux. Le stade religieux, on est à nouveau tout seul. On est au-delà de l'éthique. Ça ne veut pas dire que ça vient abolir l'éthique, justement. Et c'est là qu'un enfant, évidemment, quand il entend ce texte, il faut vraiment lui faire comprendre que ce n'est pas juste une histoire de happy end. Ce n'est pas juste, ah, ça se termine bien, on va aller prendre notre 4 heures.
Mais là, on l'arrête au dernier moment, quand même. Hein.
Mais après, ils redescendent et ils reprennent une vie de famille. Et puis, il y a les serviteurs, il y a tout. En fait, au moment crucial, ils sont tous les deux. Puis, tout d'un coup, la vie revient. La vie diurne, la vie... Il y a les serviteurs, il y a les chameaux, il y a la caravane. C'est très étonnant. Mais la révolte, peut-être, une forme de révolte
mais avant,
dans l'obéissance.
Révolte.
Oui.
Mais ce qu'on peut voir aussi, si vous, peut-être, c'est que bon, il veut élever son fils. Et donc, dans un sens, ça part d'une bonne volonté, et c'est vrai qu'on peut le voir. Hein. Il veut un fils, du coup, tellement parfait qu'il le ligote. Il n'a pas son mot à dire, c'est-à-dire qu'il ne va pas lui expliquer bah, « Écoute, mon fils, désolé, mais voilà comment ça va se passer. » Non, il n'y a pas un mot, il ne l'appelle pas par son nom. Il le prend comme un paquet, encore une fois, j'allais dire. Il est assez grand quand même. Je pense qu'il doit avoir 15-18 ans, je ne sais plus très bien.
Ah bon, quand même.
Je crois, oui. Mais il veut porter le bois quand même, enfin, je ne sais pas. Et,
il a fait sa barbe, n'est-ce pas ?
Et donc, et cette ligature, c'est vrai que c'est intéressant de dire la ligature, parce que c'est vrai que du coup, si on veut que les gens soient parfaits que autour de nous, si on veut les élever, peut y avoir plusieurs façons. Si c'était ça, il aurait dû faire avec Isaac comme Dieu fait avec lui, c'est-à-dire il lui explique le but, il l'appelle, il dialogue, il aurait dû lui annoncer comme le fait Dieu qu'il est béni, qu'il l'aime, je ne sais pas moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est ton bien-aimé, mais Dieu lui dit c'est ton fils bien-aimé, mais Abraham ne prend pas une seconde pour dire à son fils qu'il l'aime, ça peut-être ça manque un petit peu quand même, et donc pour élever son fils... Quoi ? Ben oui. Ben oui, mais enfin, je trouve que, voilà, il découvre peut-être que... Pourtant, au milieu, il y a déjà un frémissement. Quand son fils ouvre la parole, ouvre la bouche, il dit « Mon père ». Ça le fait réfléchir quand même. Et il répond « Oui, mon fils, c'est un peu faible, parce que je crois qu'il dit « Me voici », non ? Me voici.
Inéni, mais le mot mon fils apparaît puisque quelquefois on a pu penser que c'était une apposition à l'agneau et que ça pourrait vouloir dire l'agneau sera mon fils. Et puis on traduit pas comme ça parce que c'est abominable.
Alors, mais inéni, si vous voulez, c'est extrêmement fort. Ce inéni, me voici, c'est le me voici d'ailleurs d'Abraham devant Dieu au premier verset. Et c'est très important, c'est-à-dire me voici présent à toi. Et donc quand il dit ça à son fils, quelque part il reconnaît quand même que son fils n'est pas qu'un paquet, quoi. C'est ça, normalement. Hein. Mais il explique assez vaguement, et puis son fils, bon, il se laisse embarquer encore comme ça. Oui ?
Je ne sais pas si c'est hérétique.
Ah, mais on a le droit.
C'est toute analogie avec la Trinité, on a trois personnes et puis on a deux enfants. Mm. Et hérétique, c'est-à-dire on a Yahvé, Dieu, on a deux anges, je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint, on a Abraham, c'est le Christ, on a l'enfant, c'est l'homme. Est-ce que c'est parce que. Je ne sais pas, ça me sort comme ça.
Pour moi, c'est le temps du Fils qui est en train de s'ouvrir, là. Mais le Fils, je le vois plus dans Isaac. Oui.
Est-ce qu'on ne voit pas, effectivement, ça?
Oui.
Et on n'est pas au cœur, là,
bien sûr.
De prémonition.
Il faut que le temps du Père s'efface.
Oui.
D'où le...
Et Abraham, du coup, si on file l'analogie, c'est pas trop loin, mais Abraham, c'est que le sang du Christ, c'est le symbole.
La tradition, les pères de l'Église ont plutôt vu dans Isaac, puisque c'est le fils.
Ouais.
Abraham étant finalement une réduplication de Dieu. Moi, je crois, si vraiment, comme le dit le rabbin Bernheim, hein, si Abraham fait son Rosh Hashana, c'est-à-dire qu'il découvre qu'il doit laisser aller, qu'un temps nouveau s'ouvre. Et pour reprendre l'image des rabbins qui parlent de la part vieille et de la part jeune que nous avons en nous, la part vieille n'étant pas mauvaise, hein, mais simplement il faut trouver une synthèse entre les deux. Et la part vieille ici serait symbolisée donc par le bélier qui finalement est sacrifié. Donc ce qui est sacrifié finalement là-dedans, c'est une certaine idée de Dieu, justement.
Ça, c'est bien, oui.
C'est ça l'objet de l'Holocauste, ce qui est consumé et brûlé. C'est cette image. Et qui laisse, qui ouvre un espace, qui laisse vivre le Fils. Voilà. Et le Fils n'est plus finalement un obstacle ou un adversaire ou un rival. C'est toujours le problème. Hein. Le Fils devient celui qui va accomplir, celui qui va faire les œuvres d'Abraham. Voilà, comme dit Jésus. Celui qui va faire les œuvres d'Abraham, c'est plus Abraham à un moment. Ce sera Isaac, voilà. Puis Jacob.
Et dans beaucoup d'autres civilisations, les sacrifices humains, ça se fait, hein, ou pour faire lever le vent, ou pour irriguer la...
Mais avec là, c'est fini.
Avec le sang de... On a
oui. Ah oui, oui, mais les Aztèques, oui. Tout à fait, mais là, c'est fini.
Donc comme fondement, il paraît, il n'y a pas si longtemps, comme fondement d'une maison où c'est...
Ce qui m'a frappé, c'est que quand on a lu le chapitre 12, Yahvé dit à Abraham, je ferai de toi un grand peuple. Or, après, il lui ordonne de sacrifier sa postérité.
Voilà.
Le sacrifice, c'est vraiment ce qu'il a le plus sacré, à savoir, il ne donne même pas le martyr pour lui-même, mais d'effacer sa descendance.
Et de donner, d'offrir, puisque c'est une offrande, le sacrifice.
Et donc ça, j'aime bien l'idée de conversion, par la foi, finalement. Une foi qui se cramponne pas à ce qu'il pense croire juste de Dieu, finalement, mais qui se laisse rejoindre, transformer, évoluer pour passer d'un Dieu qui demande des choses absurdes, finalement, qui demande de la mort, qui demande des sacrifices, pour s'ouvrir de nouveau à une méditation sur la promesse. Parce qu'on pourrait croire que la promesse, à la fin... elle est conditionnée au fait qu'il a passé l'épreuve, mais comme vous le faites remarquer, cette promesse qui est à la fin du chapitre 22, c'est la même que celle que Dieu a déjà donnée au chapitre 12 et répétée en 15, 17, 18 et encore, vous voyez ce que je veux dire, répétée tout au long de l'itinéraire. Donc, il commence à peut-être à s'imprégner de cette bénédiction, ça commence à faire son chemin dans son être, et que finalement, eh bien, cette bénédiction, elle est donnée parce que Dieu a choisi que ce soit comme ça, et qu'elle n'est pas à monnayer par un sacrifice, ni de soi-même, finalement, c'est-à-dire de sacrifice terrible d'Abraham, qui est prêt à donner ce qui lui est le plus cher, y compris son intelligence, sa compréhension, et encore moins pour sacrifier les autres, un innocent à l'autel de mes convictions erronées de ce que Dieu peut demander et faire. Alors ce que je trouve absolument étonnant, c'est que malgré ce texte qui nous propose un changement de théologie où il est hors de question d'acheter la bénédiction de Dieu par des sacrifices humains, comment est-ce qu'on a pu penser que le sacrifice de la croix du Christ sur la croix était finalement quelque chose de cet ordre où le Fils serait effectivement sacrifié pour obtenir la bénédiction de Dieu sur l'humanité. Je trouve que c'est absolument invraisemblable. Ce que nous dit ce texte, c'est que Dieu ne demande pas les sacrifices, c'est lui qui offre le bélier, et il nous offre finalement, il nous offre à travers cela, si vous voulez, il nous offre une connaissance de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui découvre Abraham à travers ce truc, c'est Abraham qui découvre qui Dieu est réellement, un Dieu qui donne et pas un Dieu qui demande que l'on tue ou que l'on sacrifie, je crois.
Voilà, alors effectivement, cette foi ici nous est transmise par un étranger. Mon père était un araméen errant, dit la Bible. Nous verrons la prochaine fois, en novembre, que la foi que Jésus repère et qu'il donne comme exemple est celle d'un centurion et celle aussi de Bartimée. Donc nous verrons que la foi n'est jamais totalement là où on croit qu'elle est. Et c'est le 14 novembre avec l'évangile de Matthieu et de Marc.
Et ça sera aux 4 rues de l'Oratoire, donc, puisqu'on va alternativement à l'Oratoire du Louvre et à Saint-Eustache.
Et l'heure ?
20h. Ah, il y a les papiers.
Oui, il y a des petits papiers, voilà.
Papier saumon. Remplace le Financial Times. Merci beaucoup.
Grâce à toi, d'ailleurs. En juillet prochain, c'est moi qui ferai, quand même. Les scribes, oui.
Eh bien, bon retour.
Ils étaient plusieurs. Bonne soirée.